Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et ce matin, notre invité, voilà, on va essayer de reprendre un peu notre sérieux, notre invité est Muriel Levrault, elle est députée LFI NUPES de la 4e circonscription des Côtes d'Armor, la circonscription de Guingamp, et elle est venue précisément de Guingamp pour être avec nous ce matin au micro en direct. Je l'en remercie, bonjour.
Bonjour.
Alors la vie de députée est difficile, on bouge beaucoup, on fait beaucoup de routes, et c'est pour ça que je tenais à vous remercier d'être là ce matin en direct. On va parler de politique et on va parler d'entrée de ce qui se passe au Proche-Orient. Aujourd'hui, on attend la libération des otages. Il y a un grand espoir des familles, mais déjà les roquettes sont tombées sur Israël. Ce qui crée aussi un climat ici en France. On a beaucoup reproché à LFI, on va vous entendre là-dessus, de ne pas avoir peut-être voulu ou pu ou trouver les mots. Est-ce qu'il fallait communiquer différemment, si vous me permettez le terme communiquer ?
Est-ce qu'il fallait communiquer différemment ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu contextualiser très rapidement pour ne pas être dans l'émotion, ce qui est très difficile parce que les actes étaient terribles, hein, les actes du 7 octobre. Et contextualiser dans ces cas-là, c'était très dur. Après, je pense que là, comme on voit maintenant, que je pense que c'est pas vraiment un problème de communication. Je pense que quoi qu'on aurait dit, de toute façon, la situation était très polarisée et tout a été fait pour polariser cette situation. On voit d'ailleurs que Madame Braun-Pivet revient sur ses déclarations, hein, puisqu'elle avait parlé de soutien inconditionnel à Israël. Elle revient sur ses déclarations et pourtant, moi, j'étais en hémicycle, j'ai bien entendu ce qu'elle a dit. C'était bien un soutien inconditionnel. Nous, on voulait mettre des conditions, justement. Donc, c'est pour ça que peut-être c'était peut-être difficile à entendre, mais il faut vite avoir du recul, même si c'est vrai que l'émotion était très très forte.
Il y a eu les mots les non-mots de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça a posé problème au sein de LFI ? Est-ce qu'il y a eu un débat pour dire, voilà, peut-être que Jean-Luc Mélenchon n'a pas trouvé les mots, n'a pas voulu ou pu non plus trouver les mots ?
Est-ce qu'il n'a pas trouvé les mots ? Il a utilisé les siens, on va dire. Après, d'autres se sont exprimés différemment. Moi, ça me pose pas de difficulté, en fait, qu'il y ait plusieurs façons de dire les choses. Ça me pose pas de difficulté.
C'est le mot terroriste, en fait, qui a posé difficulté concernant le Hamas. Est-ce qu'il fallait l'utiliser, ce mot ?
Est-ce qu'il fallait l'utiliser ? Je pense que si Jean-Luc Mélenchon l'a pas utilisé, c'est parce qu'il savait que dès lors qu'on parle de terrorisme, il faut une éradication totale. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors effectivement, là le problème qui se passe, c'est que c'est la population civile qui est en train de subir ce conflit. Et dès lors qu'on parle de terrorisme, effectivement, c'est le bien contre le mal. Sans expliquer, sans contextualiser. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a choisi de ne pas dire ce mot. Mais ce sont des actes de terreur, ça c'est certain.
Alors, actes de terreur qui ont suscité une vague d'indignation, évidemment, et qui sont arrivés sur notre territoire. On a vu ressurgir quelque chose que l'on pensait mort et enterré depuis de nombreuses années et qui a ramené à nos souvenirs une époque peu glorieuse de la France. On a vu ressurgir l'antisémitisme, le racisme dans son expression la plus crasse. Est-ce qu'aujourd'hui, on a basculé dans quelque chose d'autre ici en France ? Est-ce que ce climat délétère que l'on vit, par rapport à avant.
Ça avait déjà commencé avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez cet été. Il y a eu des saccages à la Butte Rouge, sur le lieu de commémoration de la Butte Rouge. Donc on voit que l'antisémitisme était déjà présent.
Il s'est développé à partir du 7 octobre. Enfin, il s'est exprimé, j'allais dire, à partir du 7 octobre.
Oui, certainement. Mais il était déjà présent. C'est ça qui est inquiétant. Donc je pense que on a peut-être mal travaillé sur le sujet. Même si on était nombreux à la Butte Rouge cet été pour dénoncer les faits.
Je précise pour nos auditeurs, la Butte Rouge est un lieu de commémoration dans les Côtes d'Armor, là où sont tombés des résistants face à l'armée d'occupation allemande, à l'armée d'occupation nazie. nazis. Hein, donc, il est important de dire, la stèle a été profanée. Hein, voilà, je le précise pour nos auditeurs qui sont un peu lointains et hors des Côtes d'Armor.
Donc, c'était déjà présent. Et là, je pense qu'il y a une montée, effectivement, des agressions antisémites et des agressions racistes en général. Le fait d'avoir polarisé, là, en fait, on met les uns contre les autres, c'est vraiment pas la chose à faire. Donc, lutter contre tous les racismes. Mmh. C'est vraiment très important.
C'est quelque chose qui vous inquiète en tant que parlementaire, de voir ce climat qui monte et ça prend une certaine ampleur. On l'a vu, encore, avec le drame qui s'est passé à Crépol, dans la Drôme, ce jeune homme qui a été assassiné par une bande de jeunes. Là, la justice fera son travail, évidemment, mais on a senti là aussi cette polarisation.
Oui, c'est sûr que ça augmente. Là, je pense aussi que peut-être que le fait, encore une fois, de polariser, d'avoir créé ce... Moi, je pense que le climat a été créé au lieu de mettre l'union derrière la lutte contre le racisme. On a plutôt créé une polarisation qui est vraiment malsaine.
On va parler des dossiers qui vont être peut-être un petit peu loin de cette actualité politique, même géopolitique, qui nous préoccupe en ce moment. Il y a beaucoup de dossiers ici, dans les Côtes d'Armor. Vous en défendez quelques-uns. J'avais envie de vous entendre sur la maternité de Guingamp. Vous venez de Guingamp, je le disais tout à l'heure à nos auditeurs en commençant. La maternité de Guingamp qui risque de disparaître, d'être fermée. Il n'y a plus d'accouchement actuellement à la maternité de Guingamp. Il y a une forme de moratoire, je ne sais pas comment on peut dire.
Oui, il y a une suspension.
Une suspension, voilà, oui. Merci.
Le terme.
Suspension, pour prendre le terme exact des accouchements. Mmh. Est-ce qu'elle va disparaître, cette maternité?
J'espère pas. Mais effectivement, là, tout est fait pour que la situation pourrisse, en fait. C'est ça, hein, c'est vraiment une stratégie du pourrissement. Alors, et ce qui est étonnant, c'est que le projet médico-soignant avait pourtant été refusé par la commission médicale d'établissement, par le conseil de surveillance, par les représentants syndicaux. Et malgré ça, lors du comité stratégique du groupement hospitalier, il y a eu un vote, en fait. Et là, à la surprise des syndicats, qui n'étaient même pas au courant, donc la suspension a été votée.
Qui vote la suspension? Pourquoi il y avait une suspension? C'est d'ordre économique? C'est d'ordre
Alors, il y a plusieurs raisons. On donne souvent plusieurs raisons. Ça peut être des raisons de sécurité, des problèmes d'effectifs, etc., etc. Mais ce qui se passe, en fait, c'est qu'on n'a jamais eu... Il n'y a jamais eu aucune annonce pour une vision pérenne de cette maternité. Donc, c'est un cercle vicieux. Si on ne donne pas un signal vraiment fort de la pérennité de cette maternité, les soignants ne vont pas vouloir venir s'installer. Ça semble logique. Ils ne sont pas... Et donc, parce que ça fait quand même depuis 2018 qu'on lutte pour cette maternité.
Voilà,
mais comme on annonce
préciser,
tout le temps la fermeture d'un service ou autre, les soignants hésitent à venir s'installer. Mais la mort de la maternité, c'est la mort d'un territoire. Donc, il faut faire vraiment tout pour la garder, bien sûr.
Avec des situations humaines terribles, parce qu'on a des femmes qui sont obligées d'aller accoucher à Saint-Brieuc, par exemple, ou ailleurs. Donc, il y a la route. On le voit dans les faits divers, bien souvent, des petits garçons, des petites filles qui naissent le long de la route. Enfin, même si les pompiers interviennent. Ouais. Est-ce que c'est normal aujourd'hui?
Non, c'est pas normal. Et, alors, en 20 ans, on a déjà perdu Loudéac, Paimpol, Dinan. Maintenant, c'est Guingamp. C'est pas possible. Pour moi, c'est une atteinte... C'est une atteinte au droit des femmes de disposer de leur corps, en fait, parce qu'elles ne vont plus avoir le choix. Il n'y aura vraiment plus le choix. Hein. Donc, moi, j'appelle ça... Bon, voilà, on va faire des grosses maternités, des usines à bébés. Hein. Ça ne plaît pas à M. Véran, mais c'est pourtant le terme que je pense qu'on peut utiliser. Et ce n'est pas qu'à Guingamp, c'est partout en France. Et ça, je tiens vraiment à le rappeler. Il y avait eu le rapport du docteur Ville qui préconisait la fermeture de 111 maternités en France. Il resterait plus, alors sur le département, là, il resterait plus que Saint-Brieuc et la maternité privée, évidemment. Mais je parle là des maternités publiques, il resterait plus que Saint-Brieuc. Donc, c'est pas possible.
pour tout le département des Côtes d'Armor, hein, on le précise bien,
oui, bien
puisque
oui, oui,
voilà,
oui, oui.
Ouais. Avec aussi une infrastructure routière qui permet pas forcément de rallier Saint-Brieuc rapidement.
Non, si... puis il y a déjà eu des exemples, hein, de femmes
bébé,
qui accouchaient dans les ambulances, sur le bord de la route, mais même les pompiers ne souhaitent pas ça, hein, évidemment.
Comment on peut essayer d'infléchir cette décision lorsque l'on est parlementaire, lorsque l'on est député, comme vous, Muriel Levrault, est-ce qu'il y a des leviers, est-ce qu'il y a quand même une petite forme d'espoir?
Moi, j'ai fait les deux premières questions au gouvernement, en hémicycle, c'était sur la maternité. À chaque fois, on m'a répondu à côté. Donc c'est très désagréable. Et évidemment, c'est dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale qu'on essaye d'apporter des éléments pour améliorer la situation. Et malheureusement, pour l'instant, c'est à chaque fois un 49-3 sur chaque partie du budget. On a eu un 49-3. Donc c'est vraiment très problématique puisque ça évite les débats. Et je sais qu'au Sénat également, le ministre de la Santé... Monsieur Rousseau a plus ou moins dit qu'il n'y aurait pas de loi structurante, d'une grande loi structurante sur la santé.
Alors la santé,
c'est très inquiétant.
La santé, ça préoccupe les citoyens français, les Bretons.
Mais pas que les Bretons, c'est vraiment partout en France. Voilà. C'est pas que les maternités, c'est aussi tous les services des urgences qui sont vraiment là à bout de souffle.
Justement, il y a un autre grand dossier, c'est l'hôpital de Carhaix, qui n'est pas dans les Côtes d'Armor pour le coup. L'hôpital de Carhaix aussi qui est menacé. On a vu ces manifestations ces dernières semaines à Quimper devant les locaux de l'ARS, par exemple. Là aussi, il y a, permettez-moi le terme, mais il n'y a pas de jeu de mots dans mon interrogation, mais il y a urgence.
Ah oui, bien sûr. Alors là, ce qui a fait le... c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était la régulation des urgences, justement, sur Carhaix. Donc, ils ont réussi, en bonne intelligence, à Carhaix, à s'entendre avec les élus, les syndicats, les collectifs citoyens. Voilà, ils ont lutté tous ensemble. Ils sont allés donc à Quimper, effectivement. Ils ont réussi à obtenir un protocole de sortie de crise. C'est très bien, ils ont vraiment lutté, c'est très bien, on voit que ça paye, il faut continuer à se battre pour sauvegarder nos hôpitaux. Malgré tout, j'ai d'inquiétude, c'est que on manque de soignants, on voit que pour l'instant c'est pas faisable en fait. Même avec un protocole de sortie de crise, c'est pas faisable, et je pense vraiment que ce dont on a besoin, c'est pas un protocole de sortie de crise, mais un protocole de sortie de système. Puisque
le système
est tabou. On le voit bien. Je pense que là, les soignants sont vraiment n'en peuvent plus. On voit des grèves arriver un peu partout. Là, on a vu à Morlaix, Brest, Rennes aussi. Et c'est pas facile pour eux de faire grève. Donc, quand les soignants se mettent en grève, c'est vraiment qu'il faut vraiment intervenir d'urgence là.
On voit le facteur humain aussi lorsque l'on va malheureusement aux urgences parce qu'on en a besoin, c'est pas franchement l'envie d'y aller, mais on constate ces files d'attente, ces brancards souvent dans les couloirs, le personnel fait bien ce qu'il peut, il est souvent débordé. On parlait de ce système de santé, est-ce qu'il faut aujourd'hui en France une grande réforme de la santé? Est-ce que vous l'appelez de vos voeux?
Ah oui, complètement. Oui, bien sûr. Et on voit que on parle de régulation des urgences, mais en fait, c'est un autre mot pour dire fermeture, puisque en fait, on ne peut pas aller aux urgences sans téléphoner, sans faire le 15. Et donc, on nous envoie pas au service d'urgence le plus proche, généralement. Et le fait qu'il y ait également le problème qu'on a, c'est vraiment un problème structurel, puisqu'on n'a plus non plus de médecins généralistes. On est en plein désert médicaux. Et ce qui fait que les gens ne se soignent plus en amont, et quand ils arrivent à l'hôpital, c'est pas pour des petits bobos, c'est pas vrai. C'est vraiment souvent, c'est qu'ils ont besoin d'aller voir un médecin, et souvent en urgence, puisqu'ils n'ont pas eu la possibilité de se soigner correctement avec un médecin généraliste.
Aujourd'hui, les médecins ne veulent plus s'installer dans les campagnes. On le vit ici en Bretagne, en centre-Bretagne, mais aussi sur la côte, voire même dans des villes. À Saint-Brieuc, il y a un problème d'installation de médecins, que ce soit des généralistes ou encore des spécialistes. Là aussi, il va falloir réfléchir à un système qui serait plus... Alors, j'aime pas le terme, mais coercitif peut-être.
Oui, bah, oui, oui, certainement. Alors, il y a eu un projet de loi transpartisan hein, sur les déserts médicaux qui avait été signé par la NUPES et par d'autres, par toutes les obédiences sauf le Rassemblement national. Et malheureusement, il n'a pas. Madame Braun-Pivet et la présidente de la commission des affaires sociales n'ont pas souhaité l'étudier en hémicycle. C'est bien dommage. Ce qui fait qu'on n'a pas pu débattre sur le sujet, mais effectivement, pourquoi pas faire en sorte que les médecins s'installent dans les déserts médicaux après leurs études, voyez.
Des obligés en quelque sorte.
Alors oui.
Alors quand je dis obligé, je mets
une obligation, une incitation. Il y a certainement, il y a des possibilités. Je pense que oui, une obligation. Les enseignants, c'est ce qui se passe pour les enseignants. Pourquoi pas pour les médecins?
Alors, il y a aussi le grand souci de la vieillesse, du bien vieillir, hein, c'est le grand terme à la mode en ce moment, le bien vieillir. Or, on voit que souvent les EHPAD sont pointés du doigt. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur de suivre ces dossiers. Ouais. Je voulais vous entendre là-dessus. Est-ce qu'on vieillit bien aujourd'hui en France ou en Bretagne? Alors voilà, je fais un peu de chauvinisme, mais est-ce qu'on vieillit bien aujourd'hui? En tout cas, est-ce que cette fin de vie est accompagné correctement? Est-ce qu'on prend soin de nos anciens?
Voilà. Alors, pour l'instant, on peut dire que c'est pas terrible. Alors, attention, c'est pas de la malveillance de la part des personnels. Voilà.
Non, j'entendais vraiment, pas dans ce sens-là, voilà. Évidemment.
Là, le problème qui se passe avec les EHPAD, on a été alerté par les directeurs d'EHPAD, par les personnels et même les maires. Hein, ont créé un collectif pour alerter. C'est d'ailleurs ma troisième question au gouvernement était sur les EHPAD. Là, 85% des EHPAD publics sont en difficulté financière. C'était un rapport de la Fédération hospitalière de l'année dernière, pour plusieurs raisons. La loi, les primes Ségur, qui n'ont pas été compensées par l'État, hein, et donc qui pèsent sur les établissements, mais également l'inflation sur l'énergie et les produits alimentaires, hein, donc l'augmentation des prix. Et 85% des EHPAD publics sont en difficulté.
Le chiffre donne le vertige.
Ah oui, oui, oui. Non, c'est pour ça. C'est vraiment très problématique. Donc, il y a eu quelques petites aides. Madame Berger s'est déplacée a parlé de quelques millions, mais malheureusement, ça ne sera absolument pas suffisant. Mmh. Et dans la loi Bien Vieillir, malheureusement, qui a été votée hier, il y a vraiment pas grand-chose pour les EHPAD. Ça va pas changer le problème. Donc, de la même façon. Qu'il faut une grande loi pour la santé, il faut une grande loi aussi pour... loi d'ailleurs qui avait été annoncée par Macron depuis déjà quelques temps, mais qu'on ne voit pas venir.
Voilà, le président de la République avait parlé du bien vieillir, justement.
Mais oui, sachant que, évidemment, la population, en Bretagne notamment, est vieillissante et que tout ça peut s'anticiper. Donc, on a un grand manque de préparation.
Alors, il y a aussi en Bretagne quelque chose qui préoccupe, j'allais dire, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes et bien entendu le personnel enseignant, ce sont les fermetures de collèges. Et on en parle beaucoup, c'est le collège de Corlay dans les Côtes d'Armor. Alors, pour situer, c'est en centre-Bretagne, c'est vraiment dans le centre-Bretagne, ce collège. Alors, je dis ce petit collège sans être péjoratif, il n'y a pas un gros effectif. Ce petit collège pourrait être fermé prochainement. C'est une décision du conseil départemental. Ouais. Décision qui ne passe pas.
Non, moi je comprends qu'elle ne passe pas. C'est un très mauvais signal pour nos territoires ruraux. Un collège, c'est vraiment, vraiment important dans une commune. Il y a toute une vie autour. Il y a des familles qui s'installent et qui font leur vie tout autour. Donc, c'est vraiment un mauvais signal. Je me suis déplacée à Corlay pour rencontrer le collectif. Ils sont venus également à l'Assemblée nationale. On les a rencontrés avec deux collègues commissaires à l'éducation, Rodrigo Arenas et Léo Walters. Donc, on les a rencontrés. Ils sont déterminés à garder leur collège, et je les comprends. Après, on va peut-être essayer de trouver des solutions. Mais Ce qui est très embêtant, c'est qu'en plus, il n'y a pas eu de concertation préalable. Mmh. Donc, on leur annonce voilà, la fermeture du collège.
Ça a été brutal, finalement.
Ça a été très brutal. Mmh. Et puis, pour des raisons... on parle de raisons pédagogiques, etc. Mais le collège, ça fait très longtemps qu'il c'est un collège à 4 classes. Bon, ça n'a jamais posé de difficultés jusqu'ici. Donc, la décision est rude, ouais. Mmh. Mmh.
Oui, oui. C'est aussi quelque chose de dommageable pour le territoire, mais aussi pour tout l'aspect humain, parce qu'évidemment, il y a des élèves scolarisés, il y a des élèves, comme dans tous les autres territoires, qui sont en difficulté, dont les familles sont en difficulté. Ça veut dire aussi du transport, ça veut dire aussi beaucoup de choses pour aller au collège d'à côté.
Oui, étudier. Puis on annonce la création d'un nouveau collège, tout neuf. Alors, la transition écologique, normalement, c'est pas d'artificialisation des sols, etc. Alors, pourquoi ne pas plutôt rénover, s'il y a besoin, le collège de Corlay, garder l'existant et ne pas créer encore un nouveau bâtiment. Alors, moi, je me suis posé la question aussi, c'est le fait qu'on manque d'enseignants. Mmh. Donc, réduire, alors, fermer des classes, parce qu'il faut savoir aussi que même dans le second degré, il y a eu beaucoup de fermetures de classes cette année. Donc, fermer des classes, fermer des collèges, ça permet de regrouper dans des établissements plus grands et on a besoin de moins d'enseignants. On fait des classes plus grandes, moins d'enseignants. Donc, au lieu de rendre le métier d'enseignant attractif, on va regrouper puis faire des établissements plus grands. C'est ce qui se passe, c'est le même principe que pour la santé. On fait des établissements plus grands, c'est logique comptable, finalement. C'est ça, complètement. Mmh. C'est toute cette politique qui nous envoie un peu dans le mur. Et notamment dans les territoires ruraux, c'est vraiment terrible.
En tant que député, vous avez pu prendre langue avec le conseil départemental, essayer de discuter pour défendre finalement ce que défend le collectif. On en parlera lundi avec notre invitée qui est la présidente du collectif. Elle sera avec nous lundi matin. Vous avez pu discuter finalement avec le département?
Alors pour l'instant, moi j'ai discuté avec les collectifs, ce qu'il en est. Eux, après, discutent avec le conseil départemental, je suppose. Mais là, en fait, la façon dont ça a été fait, fait que le débat n'est pas terrible pour l'instant. Mais c'est en cours, Il y a un courrier qui est en cours.
Alors, on parle beaucoup de précarité aujourd'hui, de difficultés, d'inflation. Elle est toujours là, l'inflation. Elle a été un petit peu mise de côté avec l'actualité dense de ces derniers temps. On a beaucoup de difficultés dans les zones rurales, mais aussi dans les grandes villes, à vivre. L'électricité coûte cher, les déplacements coûtent cher. On a l'impression qu'on est dans une forme de fuite en avant et que ça reviendra plus comme avant. Voilà, on continuera à payer notre énergie plus cher, on continuera à payer les denrées alimentaires plus chères. Est-ce que ça inquiète la députée que vous êtes ?
Ah bah bien sûr, ça inquiète la députée, ça inquiète, et je pense que ça n'inquiète pas que moi. C'est vrai. Alors, effectivement, c'est pas que dans les zones rurales, c'est partout. Oui. La santé, c'est pareil, c'est pas que dans les zones rurales. L'inflation, là, grève les budgets de façon terrible. On voit qu'il y a une augmentation des files d'attente pour l'aide alimentaire. Et les réserves de l'aide alimentaire sont vides. Donc oui, on a vraiment une grosse inquiétude, malgré les miettes que M. Arnault a daigné donner au Resto du Cœur, notamment.
Les Restos du Cœur sont obligés de faire des choix, finalement, aujourd'hui, pour les bénéficiaires.
Mais les bénéficiaires sont en augmentation, notamment les femmes seules. Et donc là, on manque cruellement d'aide. Et donc là, je pense que le gouvernement n'est pas à la hauteur, effectivement.
Ouais. Il faudrait une aide massive pour ceux qui n'ont rien ou pas grand-chose.
Bien sûr. Oui, bien sûr. Et une augmentation des salaires. À commencer par là. Et là, pour l'instant, ça a été refus catégorique systématiquement.
On voit aujourd'hui cette précarité qui galope, cette inflation, ce mécontentement plus largement de la population. Et on voit une progression des partis d'extrême droite. On pense au Rassemblement national, évidemment. Est-ce que là aussi, j'ai posé la question à plusieurs de mes interlocuteurs, est-ce que là aussi c'est un phénomène qui appelle une forme d'inquiétude de votre part, alors, des parlementaires, des députés, alors peut-être plus largement des citoyens.
Ouais. Oui, bien sûr. On voit que l'extrême droite augmente en France et en Bretagne, ce qui est vraiment une nouveauté. Ben, voilà, avant, on n'avait pas
la terre de prédilection.
Tout à fait, tout à fait. Et là, ce qui me met en colère, c'est le double jeu justement de l'extrême droite entre le discours et les faits, parce qu'on peut voir qu'en hémicycle, par exemple, l'augmentation du SMIC, ils ont refusé de la voter. Donc, vous voyez, entre leur discours et ce qu'ils votent après, il y a une grosse différence. Donc, pour moi, c'est vraiment un mensonge fait aux Français. Donc, c'est à nous de faire comprendre ça aux gens pour que... Attention aux mensonges.
Est-ce que la gauche, en règle générale, a sa part de responsabilité? On a beaucoup parlé, vous allez me faire les yeux noirs, on a beaucoup parlé de bordélisation par la NUPES, en règle générale, sur les bancs de l'Assemblée, qui aurait profité justement au Rassemblement national de Mme Le Pen.
Bah, si vous voulez, nous, on n'a pas voulu banaliser les 49-3, notamment. Et je pense, alors, la bordélisation, franchement, elle est pas que de notre côté. Enfin, il faut voir comment ça se passe en hémicycle, elle n'est vraiment pas que de notre côté. Et le fait de, peut-être d'avoir fait un peu plus de bruit, on va dire, ça a permis, je pense, aussi de montrer ce qui se passait. Sinon, ça passe inaperçu. Mais ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée est inadmissible. L'accumulation des 49-3 pour éviter les débats.
On en est au 18e, je crois.
On est au 18e 49-3 qui est arrivé hier soir. C'est inadmissible. Et c'est vraiment très dangereux comme politique, justement. C'est complètement. C'est l'accumulation des 49-3 fait que les débats sont complètement impossibles. Comment vous voulez que ça fonctionne ensuite? Et donc, le fait d'avoir fait un peu de bruit a permis de mettre en lumière ce qui se passe, je pense.
Eh bien, c'est là-dessus que l'on va se quitter. Muriel Levrault, je rappelle que vous êtes députée LFI NUPES de la 4e circonscription des Côtes d'Armor, circonscription de Guingamp. Voilà, on salue nos amis guingampais. Ils sont nombreux à nous écouter, à nous envoyer des petits mots. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin.
Je vous en prie.
Je vous souhaite une très belle journée.
Merci, au revoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.